tac 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 à la tac 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 tac, Libre Radio, la radio qui claque, la radio qui contre l'Empire contre contre-attaque.
Lundi 21 mai, nous sommes rue de la Faucille en plein cœur du quartier des Grottes à Genève, un quartier qui se situe juste derrière la gare et dont on peut dire que c'est un village urbain d'une certaine manière, avec des habitants pour le moins singuliers. Parmi ces habitants, eh bien Karel Ménil en est une, qui, dont les rôles et les casquettes sont nombreuses et tu vas t'en expliquer, et qui est que l'on a rejoint maintenant sur une échelle. Alors pourquoi étais-tu sur cette échelle? Peut-être qu'avant ça, vous devez dire quelques mots de ton statut social, pour répondre.
Je réponds déjà sur l'échelle, j'avais envie de prendre de la hauteur. Alors oui, donc je suis habitante des Grottes depuis maintenant plusieurs années, par choix, par envie, par désir, par plaisir. Habitante de Genève depuis plus de 20 ans, d'origine du sud de la France. Et je suis artiste et également journaliste. Et en fait, ces deux métiers pour moi sont les mêmes médiums d'une façon de donner la parole à des gens qui ne l'ont pas. Donc en tant que journaliste, je m'intéresse à ceux qui ne prennent pas la parole ou à qui on ne la donne pas. Et en tant qu'artiste, je fais la même chose. Et en l'occurrence, c'est la raison pour laquelle tu m'as vu aujourd'hui sur une échelle, puisque je suis en train de développer tout un projet littéraire autour de la figure d'Isabelle Eberhardt. Donc Isabelle Wilhelmine Eberhardt est née ici en 1877, juste à côté de là où nous nous trouvons maintenant, sur la place des Grottes, une petite maison qui était où se trouve aujourd'hui l'université ouvrière. Et c'est une jeune femme qui naît dans une famille très intéressante, très singulière, pour reprendre le mot que tu as donné pour les Grottes. Elle a une maman russe qui a fui le tsar de Russie, un papa inconnu. Elle va être élevée par son précepteur qui est un homme savant. On voit dans les archives qu'on peut consulter que c'est une enfant assez douée, elle est polyglotte, elle adore les langues, elle est très intelligente, très vive d'esprit. Et elle se passionne pour le monde algérien, la culture arabe. Et vers ses 19-20 ans, elle part en Algérie, à la fin du 19e siècle, toute seule, pour un premier voyage. Puis elle revient, puis elle repart, et elle va se passionner pour le monde des Bédouins, le nomadisme, la culture islamique, le monde soufi, qui est une branche très particulière de l'islam, très humaniste, et elle va écrire. Elle va écrire des articles de journaux, puisqu'elle est ce qu'on appelle une publiciste à l'époque, c'est-à-dire une journaliste politique. Et elle se fait également écrivain. Elle a l'ambition d'ailleurs d'être une écrivain. Elle le dit très vite qu'elle va travailler son style littéraire. Et malheureusement, en 1904, elle se trouve à Ain Zefra dans le désert algérien. Et ça, c'est ce que l'histoire nous dit, parce qu'il y a encore des doutes, mais une crue dans Oued l'emporte et elle meurt à 27 ans. Donc fin de son histoire personnelle. Ce qui va se passer au niveau littéraire, c'est qu'on va récupérer une partie de ses manuscrits dans la boue. Et on va les confier à un homme qui s'appelle Victor Barucan, qui est rédacteur en chef d'un journal qui s'appelle El Akbar, qu'elle connaît, qu'Isabelle connaissait. Et en fait, ce monsieur, sous couvert de différents motifs, qui étaient que certains mots avaient disparu dans la boue, qu'il la connaissait bien, mais aussi sous couvert de ce qu'on pouvait faire à l'époque concernant les femmes auteurs, c'est-à-dire considérer qu'elles ne savaient pas vraiment écrire, il va malheureusement beaucoup manipuler ses écritures. Il va réécrire certains de ses textes complètement, rayer des phrases entières, changer des mots. Et aujourd'hui, on peine à lire l'authentique Isabelle Eberhardt parce que les impressions qui sont faites encore aujourd'hui sont souvent inspirées de ces textes erronés qui ont été publiés dans les années 1910-1920. Ce que j'ai fait, moi, c'est d'aller aux Archives nationales d'outre-mer qui se trouvent à Aix-en-Provence, où il y a une partie de ces manuscrits, et j'ai pris les photos, j'ai pris tous ces textes, et je les écris dans la rue de son quartier. C'est ce que je suis en train de faire sur mon échelle. Ah, en fait. Et l'idée, si tu veux, c'est de remettre en dynamique ces écrits en les remettant en partage dans l'espace public. Voilà.
D'accord. Bon, alors pour en revenir justement à cette figure d'Isabelle Eberhardt, selon toi, qu'est-ce qui l'a conduit à cette époque-là à aller en Algérie, là et pas ailleurs? Parce que c'est vrai qu'on le sait, elle a dû se déguiser en homme. Et puis, c'était une destination à l'époque dont on savait, j'imagine tout de même, que c'était des patriarcats assez verrouillés, ou peut-être pas. Mmh. Alors, selon toi, voilà, qu'est-ce qui l'a amené à choisir cette destination-là et pas une autre?
Alors, je pense qu'il y a une partie de son désir qui est liée de l'époque, c'est-à-dire l'orientalisme. On se passionnait pour ces pays-là. Il ne faut pas oublier qu'on est au moment le plus fort de la colonisation. Donc, tout le monde y va de ses récits du désert, de la beauté des Bédouins, etc. Je pense qu'au fond d'elle, il y a aussi simplement un profond universalisme une envie de découvrir l'autre, une autre culture, et aussi une envie de fuir la culture occidentale qu'elle exècre. Elle exècre vraiment ce monde qui est en train de s'industrialiser à fond, où l'économie financière prend toute sa place. On est à l'époque, fin 19e, où Verlaine est en train d'écrire ses plus beaux textes et de dénoncer une société qui va vers l'individualisme que l'on connaît aujourd'hui. Donc je pense qu'elle est dans un double mouvement, à la fois de désir de rencontrer une culture dont on parle et qui l'intrigue, et de fuir celle dans laquelle elle a vécu. Je rajouterais à ça le fait que ici sur la place des Grottes, sur la maison qui se trouve derrière la maison verte, il y avait un homme qui était professeur d'arabe, qui visiblement l'a initié à l'arabe, qui est celui qui a traduit le Coran en français qu'on trouve encore aujourd'hui chez Payot. Et donc je pense que le hasard de la rencontre l'a fait s'intéresser à cette langue. Et du coup, bah après, elle part à Marseille et elle part rejoindre le monde de l'Algérie.
D'accord. L'analogie avec Alain Maillard, j'imagine que c'est une question qui revient souvent. Alors, je ne vais pas pouvoir en faire l'économie de te la poser.
Bien sûr.
Alors, voilà, que peut-on dire si on mettait ces deux figures côte à côte? Y a-t-il des dissemblances? Y a-t-il des analogies? Sachant que Isabelle Eberhardt, malheureusement, comme tu l'as dit, décède très tôt, très jeune,
oui,
à 27 ans.
Oui. Alors, Ella Maillard a toujours rendu hommage à Isabelle Eberhardt. Elle l'admirait. Et je pense que l'une des grandes différences entre ces deux femmes, c'est qu'Isabelle Eberhardt adorait écrire, alors qu'Ella Maillard a toujours dit que c'était un peu compliqué, c'était un exercice difficile pour elle, l'écriture. Mais les deux adoraient la rencontre, le voyage. Les deux ont pris des risques fous, parce qu'elle voyage, Isabelle Eberhardt voyage seule, sans un sou. Et je pense qu'Ella Maillard a très bien dit, comme Anne-Marie Schwarzenbach, on signalait à quel point Isabelle Eberhardt a ouvert la voie des femmes de voyage et d'écriture. Et du coup, sans Isabelle Eberhardt, Ella Maillard n'aurait peut-être pas été ce qu'elle a été.
Très bien, ok. Et alors, de ton côté, alors tu l'as déjà dit en filigrane, mais j'aimerais peut-être que tu nous précises un petit peu la chose. Pourquoi, d'où vient ce choix, ton choix, de mettre en exergue cette figure-là? Parce que c'est un gros travail, tu as dû aller débusquer justement, comme tu l'as dit, ces textes. Il faut les recomposer pour une certaine part, pour une grande part même d'un truc. Alors voilà, qu'est-ce qui t'a pris d'aller sortir ce squelette-là de l'armoire?
Il se trouve que notre rapport à la littérature a changé parce que notre rapport au temps a changé. Du coup, aujourd'hui, si je te dis, tiens, ce soir, on pourrait lire du Proust, je pense que tu vas me dire, tu m'excuseras, j'ai une bière avec les copains qui m'attendent, ou j'ai piscine, ou yoga, ou méditation, ou je ne sais quoi. Mais ça va te sembler être compliqué de prendre le temps de rentrer dans une œuvre. Dans ce jeu de l'économie du temps de lecture, la littérature de patrimoine perd énormément. Dans ce jeu de notre rapport au temps qui fait l'économie de lecture, le patrimoine littéraire a perdu très cher. Parce que plus personne ne prend le temps de le consulter, de le lire, et notamment nos politiques, qui sont certainement aujourd'hui les plus mauvais lecteurs et qui du coup ignorent la richesse qui appartient à leur ville. Si tu prends simplement la ville de Genève, je travaille sur une auteure, je pourrais travailler sur énormément d'autres. On pourrait dévoiler Grésillet d'Istréal dans tout le quartier des Paquis, Borges tout autour du cimetière des Rois, enfin il y a vraiment matière. Moi je dis souvent que la littérature, elle a pour première lettre, la plus belle lettre de l'alphabet, c'est le L qui veut faire lien, qui nous relie, on la relie. Qu'on lise ou pas, la littérature, elle nous embarque. Les pauvres qu'a décrit Victor Hugo dans Les Misérables n'ont jamais lu Victor Hugo, mais parce qu'il les a écrits, nous les lisons. Et donc nous sommes en lien avec eux. Et moi je crois beaucoup à cette idée de lien. Et la littérature, c'est un champ infini qui dure depuis des siècles. Quand je dis littérature, c'est le récit. Hein. Je ne parle même pas d'écriture. Et je la trouve éminemment riche, porteuse d'imaginaire et de mettre en travail notre capacité d'empathie et de curiosité vis-à-vis des autres. Moi, je viens d'une famille où il n'y a pas de livres. J'ai rencontré la littérature vraiment par hasard, par amitié, par des gens qui m'ont dit « Mais vas-y, lis !» Puis je dis « Non, tu sais, moi, ça m'ennuie plus qu'autre chose. » Et puis vers 20 ans, je suis tombée en amour dans le texte et puis ça m'a ouvert un autre et un autre et un autre. Et une des rencontres fortes que j'ai eues avec le domaine de l'art, puisque je ne viens pas d'une famille intéressée à ça, ça s'est passé dans la rue. Et donc pour moi, la rue, c'est l'espace de la rencontre. C'est l'espace où, de manière hasardeuse, tout d'un coup, tu vois un texte et tu prends ou tu prends pas. Mais il est là et tu peux le rencontrer. Parce que je ne peux pas aller vers toi porte à porte pour dire « Dites, vous n'auriez pas dû lire d'Isabelle Eberhardt ?» Certainement, tu me dirais, écoutez, vous êtes bien gentille, mademoiselle, mais j'ai autre chose à faire ce soir. Or, quand je le mets dans la rue, et je le vois tous les jours, les gens s'arrêtent, sont intrigués par le geste parce qu'on écrit à la main. Donc d'abord, le geste les fascine, et ensuite, ils disent, mais c'est quoi que vous écrivez? C'est vachement joli. Et c'est comme ça que la rencontre et la curiosité se passe.
Et d'ailleurs, effectivement, pendant qu'on discute, on a déjà vu au moins une personne passer, s'arrêter et lire le texte. Alors peut-être, voilà, décririons-nous très concrètement ce que tu fais. Tu dissémines des citations, donc on va déjà venir au choix de ces citations, de quelle manière est-ce que tu opères ces choix-là. Et puis ensuite, le deuxième volet de la question, c'est quelle vitrine et pourquoi ces vitrines-là et de quelle manière est-ce que tu déposes ces lettres sur les vitrines, de manière un petit peu technique également.
Oui, tout à fait. Alors, en fait, moi, je prends toujours le corps d'une ville comme un corps éditorial. Je pense en termes de livres, et non pas en termes d'urbain, de plan ou de géographie. Du coup, ce projet d'Isabelle Eberhard, je l'ai souhaité dans le cadre de jours de fête, parce que c'est un événement où il y a énormément de gens qui vont débarquer dans le quartier, et que je voulais que le texte coulisse à cette occasion dans le quartier des Grottes. Je précise que le projet a pris une ambition supplémentaire à partir du moment où j'ai décidé aussi de monter une exposition des manuscrits d'Isabelle Eberhard qui va s'ouvrir à la Maison Tavel en septembre pour 3 mois et qui va pour la première fois montrer ses manuscrits à tout le monde. Alors, je suis allée voir Préambule, qui est l'animateur de quartier. Je leur ai parlé de ce projet qui les a enthousiasmés. Et à partir de là, c'était assez simple. Je savais que si je voulais écrire sur des murs, j'allais rencontrer énormément de difficultés d'autorisation. Je suis habituée à écrire sur des murs dans beaucoup de villes, mais je sais que ça me prend à peu près une année pour convaincre mes interlocuteurs politiques ou ingénieurs ou urbanistes, etc. Mon temps ici était plus court. Du coup, j'ai dit, OK, on va faire un projet plus éphémère sur 4-5 mois, mais on va travailler sur toutes les vitrines des commerçants. Et du coup, je suis allée voir les commerçants, tout simplement, porte à porte, en leur parlant de ce projet. On en a maintenant à peu près une quarantaine, en sachant qu'on en a d'autres qui se rajoutent parce qu'ils viennent me voir en disant, dis donc, c'est vachement bien ce que tu fais, est-ce que tu ne voudrais pas passer chez moi ? Donc, plus tu me donnes de vitrines, plus tu me donnes de textes. Plus tu me dis non, plus tu me donnes de trous. Et du coup, comment je compose ? J'ai pris le quartier comme 4 livres ouverts. Le texte suit un sens de lecture, donc de gauche à droite. C'est assez simple, tu l'attrapes par hasard et tu le suis. Et il y a 4 thématiques. Là, par exemple, dans la rue de la Fossée, nous sommes sur de la correspondance, c'est-à-dire des lettres d'Isabelle Eberhard qu'elle a écrites à son frère, à sa mère, à des gens. C'est de la correspondance. Ce sont des textes le plus souvent qui n'ont pas été partagés, qui ne viennent directement des manuscrits. Des fois, d'ailleurs, il y a des trous dans les textes parce que les mots, je ne les connais pas. Ils sont illisibles sur son manuscrit et je ne les invente pas. Il y a une couleur pour chaque thème. Donc là, nous sommes sur du bleu. Donc ça fait le lien de vitrine en vitrine. On est en train, là, je vais maintenant tracer un trait bleu. D'ailleurs, je me suis trompée sur le central, tu vois, c'est jaune. En fait, c'était bleu, donc je suis bonne pour refaire.
Ah, c'est toi.
C'est pas grave, ça fait partie du jeu. Et du coup, j'ai écrit à la peinture et au pinceau. Ça veut dire que je me suis mis une typographie dans la main.
Qui reste toujours la même ?
Alors, il y en a 2 différentes. Il y a des textes capitales, qui sont des textes de moi, qui sont des fragments, on va dire. Et puis, il y a une typographie qu'on dit avec empattement. Ça veut dire que les lettres ont des petits pieds. Ça, c'est directement tiré des manuscrits d'Isabelle Eberhard.
Okay.
Donc, tout ce qui est en empattement avec des petits pieds, c'est elle. Tout le reste, c'est moi. Que ce soit les textes qui sont en capitale ou que ce soit une autre petite typo qu'on n'a pas sous les yeux là maintenant, mais qui est ligaturée, qui fait des liens entre les voyelles, etc. Ça, c'est moi. Ce sont des textes que j'ai écrits à partir des rencontres que j'ai menées dans le quartier. Puisqu'en fait, depuis 8 mois, je mets Isabelle Eberhard en mouvement et en discussion partout. Et notamment avec 4 partenariats qui sont le cycle Montbrillant, 2 classes, les gens de l'EMS Résidence Amitié, 2 classes de l'École des Grottes et le foyer Soubeyran. Et je suis allée les voir, on a lu Isabelle Eberhard ensemble, je leur ai présenté son œuvre, des photos des manuscrits, on a discuté d'elle, de pourquoi elle s'habillait en homme, de ce que c'était d'être une femme écrivain à l'époque. Et je prenais note de ce qui se racontait. Moi, je fonctionne tout le temps comme ça. Je vais dans les quartiers avec des textes sous le bras, de manuscrits, des archives, et je les mets en dynamique avec le mec du bistrot, le pizzaiolo, l'ouvrier qui passe, l'homme qui vit les ordures. Et tout ça fait texte, tout ça fait récit, et je restitue tout ça dans la rue. Sinon, en fait, je serais juste une photocopieuse de manuscrits. Ça ne m'intéresserait pas. Ce qui m'intéresse, c'est que ça passe au corps des gens, et que la restitution, ce soit 2 niveaux de texte, les archives et un texte nouveau.
D'accord. Revenons à ces thèmes, donc tu disais les couleurs.
Ouais.
Et puis ?
Il y a 4 thèmes différents. Ouais. On a commencé avec Trimardeur, qui est un texte qu'elle a écrit, dont l'édition est très difficile à trouver. Trimardeur, c'était un ouvrier qui se déplaçait à l'époque. Et elle parle en fait de son enfance russe. Ça, c'est le premier texte qui commence à la place des Grottes sur le magasin de vitres et qui continue. Ensuite, ici, rue de la Faucille, on est sur la correspondance. Ensuite, nous remontons rue des Grottes avec un texte qui s'appelle Vision, qui vient directement de ses archives. On va jusqu'à la rue de l'Industrie. Et puis après, on va contourner le bâtiment qui est où il y a la boucherie des grottes, avec son dernier manuscrit qui s'appelle Sud Orané, qui est le manuscrit qu'on a retrouvé dans la boue d'elle.
Et Orané, donc d'Oran.
D'Oran, voilà. Exactement, et qui sera le dernier travail que nous ferons. Et on mettra l'éditorial de tout ceci sur la Maison Verte.
Ok. Tu as dit tout à l'heure que certains textes seraient issus de correspondances épistolaires.
Oui.
Sait-on si Isabelle Eberhard, pendant ces moments en Algérie, a-t-elle justement gardé certains rapports épistolaires avec d'autres auteurs?
D'accord. Tout le temps. Elle a eu énormément de correspondances, elle a écrit énormément de lettres. Et je pense que ça participe au fait que pendant longtemps, les femmes avaient accès à la littérature par l'épistolaire, par la correspondance. Madame de Staël, c'est beaucoup ça. Et puis, je pense qu'elle était seule, en voyage. Et donc, écrire, c'était garder en lien avec les êtres qui lui étaient chers. Alors, elle a deux types de correspondances. Une correspondance intime, familiale, amoureuse, notamment avec Slimane, qui était son grand amoureux qu'elle va épouser. Tu as deux types de correspondances, donc les correspondances intimes qui sont avec sa famille ou ses amoureux divers et variés, dont le dernier Slimane qu'elle finira par épouser. Et tu as une correspondance qui est politique. Et quand elle écrit des lettres politiques, comme la lettre qui est posée sur le central, c'est souvent pour prendre position de manière politique. Notamment, elle va ici, sur cette lettre, elle dénonce la torture. Elle va soutenir Zola. Elle va défendre, elle a été victime d'un attentat, et elle va défendre celui qui l'a agressé. Enfin, en tout cas, elle va expliquer comment les choses se sont passées. Isabelle Eberhard, c'est une citoyenne très engagée sur le monde dans lequel elle vit, et la lettre lui sert de... C'est comme on s'en sert aujourd'hui, comme un Twitter ou comme un message sur Facebook. C'est une prise de parole publique d'un thème qui lui est cher.
Je comprends. Dis-moi, concernant sa vie secrète, c'est-à-dire le fait qu'elle se déguise en homme, qui était dans la confidence? Est-ce qu'on le sait?
Bien sûr. Alors, le fait qu'ici, quand elle était à Genève, elle s'habillait en marin, parce qu'elle voulait circuler librement, et qu'à l'époque, une jeune femme ne circulait pas toute seule dans la rue. Donc, je soupçonne, mais ça c'est mon hypothèse à moi, qu'elle prenait simplement les costumes de son frère qui était marin. Mais on a des actes, d'ailleurs ça sera dans l'exposition, on a des actes d'arrêt où la police genevoise l'arrête et dénonce le fait qu'elle est habillée en homme et qu'elle marche comme un homme. Etc. Isabelle Eberhard, elle se costume pour avoir simplement la liberté ou de circuler ou de penser. Ce qui l'intéresse chez les Bédouins, c'est que ce sont eux les porteurs de la culture et de la pensée, pas les femmes qui sont réduites à des activités domestiques et qui l'intéressent moins. Pour ce qui est de ses habits arabes, la reconnaissance va être telle que si tu vas sur sa tombe à Ain Zefra, elle est enterrée dans un cimetière musulman, elle a une tombe musulmane, mais il y a ces deux noms qui sont Isabelle Eberhard, Mahamoud Saadi. Mahamoud Saadi étant son nom de plume arabe. Et donc, ils ont accepté, sur une tombe musulmane, de mettre le nom d'une femme et le nom d'un homme pour un même individu. Et du côté de l'Algérie, il faut savoir qu'Isabelle Eberhard est une figure reconnue. Il y a énormément d'étudiants qui travaillent sur elle. Une thèse, des thèses qui sont faites. Et ils savaient qu'elle était un homme. C'était une évidence pour tout le monde, qu'elle s'habillait en homme et qu'elle était une femme. À aucun moment, les Algériens, les Bédouins qu'elle rencontrait, ne se trompaient sur le fait qu'elle était une femme. Simplement, elle a été acceptée comme un père. Père, P-A-I-R. Comme quelqu'un parmi... égale à égale, parce qu'elle avait une vraie culture, parce qu'elle parlait arabe. Et c'est ce qui a fait qu'elle a été témoin de ce nomadisme bédouin d'une manière très précieuse pour nous, parce qu'elle nous a restitué cette culture de l'époque.
Je sais que tu as encore beaucoup de travail. Alors, si tu es d'accord, encore quelques petites questions rapidement.
Et puis,
parce qu'on va quand même arriver sur cette soirée du 29. Il faudra que tu nous livres tout le programme. Mais avant cela, encore justement, quelques petites questions auxquelles tu as, à mon sens, déjà répondu d'une certaine manière. Mais voilà, j'aurais voulu peut-être qu'on formalise ça. Alors, effectivement, que peut-on dire de sa vision de ces mondes, à Isabelle Eberhard, de ce monde ici qu'elle quitte et de ce monde qu'elle adopte, qui est celui en Algérie? Analogie, contradiction, voilà.
Je pense que de ce qu'on devine lorsqu'on lit ses récits intimes, Isabelle Eberhard est une enfant très douée et très mélancolique, ce qui lui fait une plume d'artiste, mais qui rend sa vie de citoyenne et de femme très, très compliquée. Elle est très sensible à la douleur que les humains se font les uns aux autres. Elle déteste et elle va prendre clairement des positions contre la colonisation, ce qui va lui valoir pas mal de problèmes. Elle est surveillée. On pense d'ailleurs, il y a des hypothèses sur le fait qu'elle ne serait peut-être pas morte incidemment noyée.
D'accord.
C'est encore des choses qu'il faudrait éclaircir. Et c'est une femme qui a beaucoup observé son époque comme quelqu'un qui a un temps d'avance. Et c'est ce qui vraiment la distingue. Elle n'est pas simplement témoin, c'est une essayiste, c'est une analyste. Si elle avait été plus loin, je pense qu'elle aurait pu devenir une philosophe. C'était pas ce qui se passait à l'époque pour les femmes, donc elle n'a pas pris ce chemin. Mais elle a une écriture à la fois poétique et très politique, très éclairée. Et je pense que, notamment quand elle est à Genève, elle baigne dans une famille d'anarchistes, d'artistes. Il y a énormément de pensées qui se brassent, qui sont politiques, et ça va influencer toute sa vision du monde jusqu'à la fin de ses jours, qui sera vraiment une manière d'aborder le territoire contemporain qui est le sien avec un esprit critique constant.
Il fallait, selon toi, qu'elle aille là-bas pour mesurer la réalité d'ici, d'une certaine manière également ?
Mais, moi, il y a quelque chose qui reste pour moi une vraie interrogation, c'est pourquoi notre petit pays a par exemple les trois plus grandes figures de la littérature féminine de voyage, qui sont Isabelle Eberhardt, Anne-Marie Schossenbach et La Maillard. Alors on pourrait dire que, comme parfois les Portugais...
S'il te plaît.
Excuse-moi.
Vous pouvez juste jouer au ballon un petit peu plus loin, on est en train de faire un enregistrement radio. C'est gentil, merci.
Merci.
Trois figures
ouais. On pourrait imaginer que notre pays étant enclavé par nos montagnes, on a peut-être envie d'aller voir ailleurs et que ça explique ce désir d'ailleurs. C'est une des raisons. Je pense aussi que ce sont simplement des femmes qui ont de l'ambition, pas forcément une ambition personnelle, mais il y en a quand même une, mais qui ont l'ambition d'aller au-delà de leur époque, d'aller au-delà des frontières, d'aller au-delà de ce qui est en train de se passer à ce moment-là. Et elles ont ouvert une voie qui est continuellement expérimentée encore aujourd'hui, mais de manière différente. Mais je pense que Isabelle Eberhardt, elle étouffe dans cette famille, qu'elle adore en même temps, mais qui l'épuise. Elle va détester ce monde un peu bourgeois qui l'entoure. Elle va continuellement détester les bourgeois. Et elle a envie, je pense, d'expérimenter la vie et les idées qu'elle a brassé ici sur sa propre peau.
Ok. Et alors, qu'en reste-t-il de cette mémoire ? Alors, on voit bien que, selon toi, on peut considérer qu'il y a un petit peu de déficit, puisque tu t'attelles au fait que, justement, cette mémoire ressurgisse. Mais voilà, selon toi, qu'en reste-t-il ? Parce que, tu sais, peut-être que des choses se sont finalement instillées dans la mémoire collective, dont, finalement, le nom a disparaît, mais peut-être que parmi certains mouvements féministes, on est au cœur des grottes, il y a l'estime qui est présente ici, il y a différentes structures, différentes associations, et c'est un quartier singulier. Peut-être que d'une certaine manière, sa mémoire vit au travers des réalisations ou d'une conscience populaire diffuse. Qu'en penses-tu ?
Bon, depuis que j'ai commencé ce projet dans la rue, hein, je me rends compte que les gens ont vaguement entendu parler d'Isabelle Eberhardt, très peu l'ont lu. Certains connaissent son nom parce que c'est le nom d'une rue. D'autres ont lu certaines choses, mais ils ne savent plus vraiment quoi. Isabelle Eberhardt est plus lue à l'étranger qu'elle n'est lue chez nous. Tu me diras, c'est souvent comme ça, hein, malheureusement. Par exemple, elle a été traduite en anglais par Paul Bowles, qui était un auteur américain qui vivait dans le désert, et elle est connue par les Américains avec qui j'ai pu parler. Ici, on a un vrai problème. Je ne dirais pas qu'elle est tombée dans l'oubli, je dirais qu'elle n'en est jamais vraiment sortie. Parce qu'elle n'a jamais pu éditer de son vivant. Et du coup, c'est compliqué pour elle d'exister comme auteur puisqu'elle n'a jamais été éditée de son vivant. Elle n'a jamais fait de signature, de salon, tu vois. Elle a publié certaines choses dans des journaux algériens francophones. Ça s'est arrêté là. Alors, une des figures qui l'a empêchée de couler totalement, c'est Edmond Charleroux, qui a fait deux énormes biographies sur Isabelle Eberhardt, mais dont 60% sont des informations qui sont fausses. Donc, je ne sais pas si elle l'a vraiment aidée. Et puis, je pense vraiment que ça participe du fait que, si tu imagines le nombre de publications qu'il y a chaque année dans les rentrées littéraires francophones, tu imagines à chaque fois que ça enfonce un peu plus loin dans le sol les auteurs précédents, et qu'au fur et à mesure, ben, ils disparaissent dans les limbes. Et aujourd'hui, Isabelle Eberhardt, elle est loin, loin, loin dans les limbes de la littérature.
D'accord. D'où l'importance de ce travail, justement, de ressurgissement du texte et de la pensée d'Isabelle Adara.
Tout à fait.
Alors, on va parler du 29, parce qu'un événement tout soudain approche et aura cours ici, dans le quartier des Grottes. Juste avant ça, je voulais encore savoir si, parmi tous ces lieux où tu as, ou à deux finalement, hein, vous avez fait le travail en tandem, vous avez mis ces citations, y a-t-il des lieux symboliques sur lesquels tu as absolument voulu t'arrêter ?
Non. Je ne prends jamais la ville pour ce qu'elle a de représentation symbolique vis-à-vis d'une œuvre. Je la prends vraiment comme un cahier tout blanc dans lequel je vais faire coulisser du texte. D'ailleurs, je ne mets pas vraiment des citations, je mets des fragments. Je mets de l'extrait de texte. Et si tu me donnes toute la ville, je mettrai l'œuvre tout entière. C'est les conditions qui me sont imposées par le quartier qui font que j'ai une taille de texte. En fait, techniquement,
d'accord,
on mesure une vitrine, on a un nombre de signes, comme quand tu veux avoir un nombre de signes sur une page de journal. C'est ça ma contrainte éditoriale. Mm-hmm. Pour le reste, je ne vais pas chercher à passer là où elle est née. J'ai fait plusieurs projets littéraires dans les espaces publics des villes. Je ne vais jamais aller écrire sur la maison de l'auteur. Je m'en fous complètement. Et je reproche aux villes de faire de l'auteur des monuments. Tu vas à Prague, tu bouffes Kafka du matin au soir, tu dors Kafka, tu peux même voir l'endroit où, soi-disant, il a eu son premier baiser, on s'en fout totalement, personne ne va lire Kafka. Tu prends Duras, tu vas à Saint-Germain-des-Prés, tu as une petite plaque pour dire « ici a habité Marguerite Duras », tout le monde s'en tape, ça ne veut pas dire ce qu'elle a représenté ou ce qu'elle a secoué dans la littérature. Et les villes souvent se débarrassent de la littérature en mettant un monument et une plaque. Moi, ce qui m'intéresse dans la littérature, c'est le texte. Ça n'est que le texte.
L'essence.
C'est le cœur de ce pourquoi un auteur s'est fait chier à écrire, pourquoi Verlaine crève de froid dans une cellule et écrit des textes merveilleux. Pour qu'on le lise. Pas pour qu'on dise, ici, Verlaine est mort de froid, on s'en fout. C'est pas ce qu'il a écrit. Pourquoi Isabelle Eberhardt est en train de crever toute seule de chaleur et de soif dans un désert pour parler des Bédouins, si c'est juste pour qu'on dise, ici est née Isabelle Eberhardt. On s'en fout. Allons la lire. On est tous en train de se prendre la tête pour savoir ce qu'on doit faire du monde musulman, alors qu'elle nous a simplement dit, va à sa rencontre et tu verras qui il est. C'est aussi bête que ça. Elle répond très simplement à notre problème humain, c'est amour et rencontre. Et ça n'a rien de naïf. C'est parce qu'elle est poète. Et je rajouterai juste un truc sur la question de l'espace public. Walter Benjamin, qui est un philosophe allemand, a dit une chose, un texte sur lequel je suis tombée dans les années 30, où il haranguait les poètes à ne pas laisser l'espace public être envahi par un seul langage qui était le langage publicitaire. La bataille est perdue, la publicité nous a envahis, mais mon pari à moi, c'est de remettre au cœur de la ville du récit qui n'est pas un récit de consommation, mais qui est un récit de l'inutile et donc de l'indispensable, qui est un récit littéraire.
D'accord. Et tu vas loin, puisque tu travailles déjà avec des petits-enfants, avec les écoles dont tu parlais, des partenariats,
tout le monde.
L'idée, c'est d'avoir un projet extrêmement inclusif.
D'embarquer tout le monde.
Voilà,
si j'avais des bras immenses, je prendrais tout le monde. Je fais le plus que je peux, et je suis souvent appelée dans des projets dits dans des quartiers difficiles. À Bruxelles, je travaille à Molenbeek, par exemple. Tout le monde a entendu parler de ce quartier. Mais tu m'as parlé de la soirée du 29. La soirée du 29, c'est un rêve, c'est une utopie. Mon rêve, justement, et on verra si je me plante ou si j'y arrive, c'est de faire que tous ces gens que j'ai pu rencontrer pendant 8 mois autour d'Isabelle Eberhardt vont être ensemble ce soir-là. Et la seule chose qu'ils ont en commun, c'est Isabelle Eberhardt. La vieille dame de l'EMS et le gamin des grottes, la seule chose qu'ils vont pouvoir se dire à part bonjour, c'est Isabelle Eberhardt, moi je connais, toi aussi. Et c'est mon pari de dire, faisons en sorte que ce petit moment-là, on soit tous autour de son œuvre. Moi, j'ai demandé à une jeune comédienne de lire des extraits de manuscrits qui n'ont jamais été lus, de textes qu'on n'a jamais partagés. Mais ce sont les enfants de l'école des Grottes qui vont nous accueillir. C'est à eux que j'ai demandé de présenter Isabelle Eberhardt aux autres. Et tous les gens du quartier sont invités. C'est entièrement gratuit, donc c'est porté sur nos petites épaules à nous, où on fait un buffet algérien parce qu'on veut boire et manger et passer un bon moment. Mais c'est de dire, elle est là. Et c'est notre point commun. Et vous allez pouvoir parler les uns les autres, parce qu'ils ont tous lu des textes différents. Je n'ai pas fait lire les mêmes textes à chacun. Et donc, ils vont pouvoir échanger. Et j'espère que cette magie-là va se passer. Très bien.
Alors, venons-y au programme de cette soirée du 29. Ça va se passer où et de quelle manière?
Alors, c'est à 18h le mardi 29 mai à la Aula de l'École des Grottes. Donc, il suffit d'arriver. Il n'y a même plus besoin de nous mettre des mails de réservation parce qu'on a déjà une jauge qui était pour nous la jauge du buffet, du nombre de personnes qu'on attendait. Donc maintenant, le buffet sera pris d'assaut, quand il n'y aura plus à manger, il n'y aura plus à manger. Si c'est le succès, c'est tant mieux. Et donc, c'est entrée libre, ça dure une heure. Et la soirée se décompose comme ceci. Moi, je vais très rapidement présenter Isabelle Eberhardt et les extraits de ses manuscrits. En quelques mots, résumer un peu ce que nous nous sommes dit autour d'elle et de la place d'Isabelle Eberhardt dans l'histoire littéraire. Mmh. Ensuite, c'est Mélina Martin, qui est une jeune comédienne tout fraîchement diplômée de la Haute École de la Manufacture de Lausanne, qui va lire des textes. Ça va durer à peu près 15-20 minutes. Ensuite, j'ai demandé à Thaïris du collectif La Ruelle. Elle fait un morceau de rap a cappella, qui est un morceau original, où elle s'est emparée de la vie d'Isabelle Eberhardt. Je lui en ai passé commande. Et on termine par un buffet. Avec une petite surprise en musique, mais je ne vais pas en dire plus, qui va durer 3 minutes.
D'accord. Où peut-on trouver ces informations-là, et plus d'informations encore sur toi, tout ce que tu pratiques? Parce que là, on a à peine ébauché certains projets que tu contiens. Mmh. Hein, y a-t-il un site internet? Peut-on voir quelques images de ton travail?
Oui. Alors, dis-nous un peu. Oui, tu peux. Alors, j'ai un site internet qui est en train d'être refait, mais où tu peux trouver pas mal d'informations, qui est www.fatraproduction.net. Et dans ce site-là, il y a les projets que je fais sur le théâtre, mais il y a aussi tout ce que je fais de manière urbaine via une structure qui s'appelle Adélie, et qui est en fait les ateliers de déplacement littéraire. Et là, tu vas trouver les projets que j'ai fait en Afrique, que j'ai fait à Marseille, que j'ai fait à Bruxelles, qui vont venir pour la suite. Parce qu'il y a d'autres choses qui vont se passer en Suisse.
Oui, j'imagine. Enfin, à Lausanne notamment.
Oui.
Voilà. Alors... Il y aurait encore plein de questions sur lesquelles on pourrait revenir, mais peut-être nous y reviendrons une autre fois.
Volontiers.
Mais pour en terminer aujourd'hui, te laisser repartir.
Terminer ma ligne bleue.
Les airs, voilà, exactement. J'aurais juste voulu savoir comment est-ce qu'on accueille les enfants. Eh bien voilà, c'est quelques-unes des singularités qui ont marqué la vie d'Isabelle Eberhardt, et notamment le fait qu'elle soit déguisée en garçon, ou voilà, qu'elle soit partie comme ça, si loin, à une époque où le voyage était peut-être moins commode. Mmh. Voilà, comment est-ce que ces enfants-là ont-ils accueilli cette aventure?
Alors, ce qui est extraordinaire chez les gamins, c'est que le fait qu'elle soit habillée en garçon ne leur pose aucune question. Ils ont très vite compris qu'elle avait envie d'être libre, et que pour être libre à l'époque, il fallait faire comme ça. Du coup, il la voit jamais comme un garçon. Il la voit comme quelqu'un qui prend les costumes de celui qu'elle veut rencontrer. Et ça, ça m'a bluffée, parce que je trouve qu'ils ont un temps d'avance là-dessus. L'un des travaux d'ailleurs à faire autour d'Isabelle Eberhardt, c'est de la défaire de cette image qui lui colle à la peau de la femme garçon. Elle n'était pas une femme garçon. Elle aimait profondément les mecs. Il n'y a pas de doute à se poser sur le fait qu'elle serait lesbienne ou bisexuelle, ou rien à voir avec tout ça, ou androgyne, rien à voir non plus. Isabelle Eberhardt, elle a compris qu'elle veut avoir accès à l'intelligence, et donc elle prend le costume qui lui permet d'y avoir accès. Les gamins, ils ont été aussi fascinés de voir qu'elle voyageait seule. Ça, pour eux, c'était de se dire, waouh, ouais, mais comment elle faisait? Elle a pris en bateau, puis après, elle voyage à cheval, ou à pied, ou à chameau. Et du coup, c'était drôle parce que la notion de temps de voyage, pour eux, était pour le coup une vraie surprise. C'est-à-dire le nombre de jours que ça lui prenait d'aller à Marseille, le nombre de jours que ça lui prenait de traverser d'un village à l'autre. Et le fait surtout, ce qui les a beaucoup impressionnés, c'est qu'elle ait fait autant de choses en si peu de temps. Elle part à la 20 ans, elle meurt à la 27, et entre-temps, elle a écrit énormément de choses.
D'accord. Karel Minich, je te remercie beaucoup de nous avoir consacré tout ce temps.
Avec plaisir.
Et puis on va continuer de suivre projet qui était un projet finalement en work in progress, pourrait-on dire.
Complètement. On est tous les jours dans la rue avec Lovisa ou Yona, qui sont. Yona, qui est la graphiste qui a fait le choix de la typo avec moi. Lovisa, qui se forme et qui travaille avec nous. On est toujours dans la rue. Et donc, il faut passer, nous dire bonjour et venir voir ce qu'on fait.
Très bien. Courage à vous deux.
Merci.
Et bonne continuation.
Merci à toi.
Les directs et les podcasts sur www.libradio.org.